J'invite maintenant Béatrice Castin à venir nous parler de l'essentiel de la vie évangélique. Béatrice est grenobloise depuis plusieurs années. Elle habitait auparavant à Montbonneau, pas très loin. Elle est très investie à Saint-Hugues-de-Bivier. Et puis, son métier, c'est d'être coach. Elle aide les autres dans leur vie professionnelle. Son cabinet s'appelle Anima Développement, tout un programme. Elle accompagne les dirigeants et leurs équipes dans les talents humains, dans la vie professionnelle. Elle est mariée avec Philippe et ils ont 3 enfants, jeunes et adultes. Et puis Béatrice, dans l'église, elle a mis ses compétences professionnelles au service de la pastorale à travers l'association Talentéo. Et par exemple, elle fait du coaching pastoral dans plusieurs diocèses de Suisse, diocèse francophone, et puis un diocèse francophone aussi, l'Ardèche. Et puis, c'était nul, je suis désolé. Je suis ardéchois aussi. Et puis, à Grenoble, Béatrice s'est engagée au Sacré-Cœur dans la construction du projet et elle accompagne les responsables projets. Et Béatrice, on lui a demandé de venir nous parler des essentiels de la vie chrétienne. Elle va vous expliquer ça très bien. Merci Béatrice.
Merci beaucoup Loïc. Alors je suis très heureuse d'être dans cette basilique dont j'ai eu la chance avec toute l'équipe et le Père Gazo de participer au lancement. Donc aujourd'hui je suis ici avec vous, un peu chez nous, comme nous sommes tous, et je me sens chez moi, et c'est vraiment chouette, parce que comme Loïc le disait, moi j'ai souvent eu l'occasion d'intervenir ailleurs qu'à Grenoble. Donc c'est un beau moment que je suis heureuse de partager avec vous. Donc je vais voir si ça marche, ça c'est toujours un petit sujet avec la technique. Donc j'allume le petit truc, et ça marche. Alors, je vais commencer par vous raconter une petite histoire de poisson. Quand j'étais une petite fille, comme beaucoup de vous ici, je passais mes vacances au bord de la mer. J'allais en Bretagne parce que je n'ai pas toutes les qualités, je suis aussi bretonne. Je ne suis pas grenobloise, je suis bretonne. Et donc, je passais mes vacances au bord de la mer. Et j'aimais bien, avec ma petite épuisette, aller le long des rochers, ramasser des crevettes, des bigorneaux, comme j'imagine beaucoup de gens ici. Et les ramener dans mon petit seau. Alors les bigorneaux c'est commode, les crevettes on les mange. Puis un jour je me souviens d'avoir pêché un petit poisson, vous savez ces petits poissons de rocher qu'on voit. Je l'ai mis dans mon petit seau et je me suis dit ce petit poisson, maman m'a dit ça se mange pas. Bon qu'est-ce que je vais faire avec? Donc j'ai mis des petites algues, du sable, des petits cailloux, un ou deux bigorneaux. Je l'ai ramené chez moi et je me suis dit je vais le garder. Je vais lui parler, c'est mon petit poisson. Donc je l'ai ramené dans ma chambre. Bon, mes parents étaient un peu décontenancés, mais c'était des bons parents, ils m'ont laissé faire mes expériences. Le lendemain matin, mon petit poisson, il bougeait moins. Je me suis dit, évidemment, il n'a rien à manger, il a faim. Donc j'ai été prendre du pain à ma cuisine, j'ai mis des petites miettes, et je me suis dit, cool, le poisson, ça va aller. Moi, je suis allée à la plage, je suis rentrée le soir, moyen le poisson. Et alors, je me suis dit, bien sûr, il faut changer l'eau. Donc j'ai vidé mon seau, j'ai mis de l'eau. Je ne suis pas idiote, hein, j'ai mis un peu de sel, hein, parce que je sais qu'il y a une différence entre l'eau douce et l'eau salée. Donc j'ai secoué le truc, et le poisson, je me suis dit, bonne nuit le poisson. Le lendemain matin, mon poisson était mort. Ah, j'étais bien triste, j'ai pleuré. Et en fait, j'ai découvert ce que c'était qu'un écosystème. En discutant avec mon papa, ma maman, eh bien, j'ai compris que c'est pas le tout d'avoir un magnifique poisson, de lui donner de l'amour et de lui parler, de lui donner des petites graines. Mais il y a tout un système autour qui fait que ce poisson, il va pouvoir se développer, il va pouvoir grandir. Et en fait, son écosystème, c'est pas un petit seau de petite fille, c'est la mer. Et c'est de ça que je suis venue vous parler ce matin. La question que je voudrais qu'on se pose ensemble, c'est que c'est quoi l'écosystème du chrétien? C'est quoi l'écosystème de la paroisse? C'est quoi cet environnement qui va nous permettre à chacun de grandir dans notre vie de chrétien et qui va permettre à nos paroisses, à notre diocèse, cette croissance. Alors je sais qu'à Grenoble, la croissance, ça n'a pas toujours le vent en poupe. on parle de décroissance. Alors, moi, je vais quand même parler de croissance, parce que quand je parle de croissance, je parle de grandir, de se développer. Donc, comment est-ce qu'on fait pour grandir, hein? Si je reprends ce que disait le père Emmanuel sur la famille, eh ben, une famille aussi, elle se développe, elle grandit. Il y a des enfants, des petits-enfants, des pièces rapportées. Hein? On peut poursuivre l'image qu'il a, et les pièces rapportées, tout le monde sait que c'est des valeurs ajoutées. Et ça, chez nous, ça s'appelle l'évangélisation. Et peut-être que ça aussi, c'est la nature de l'Église. Donc, de quoi nous avons besoin pour grandir et pour nous développer en tant que chrétiens et en tant que paroisse? C'est ça que nous allons regarder. Alors, quand on veut faire ce genre de choses, j'ai commencé par aller regarder ce que Jésus nous a montré. Et, parce qu'en fait, on a tout, hein. Vous savez, on a tout, donc il suffit de regarder et de s'y retourner de temps en temps. Et j'ai été en Marc 1, et en Marc 1, on voit, je lis, « Ils étaient frappés de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité. » Il enseignait. Ensuite, il est dans la maison. Hein, on voit un peu plus loin, en 29, « Ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. » Or, la belle-mère de Simon était couchée, elle avait de la fièvre, bon, etc. Donc, il va dans la maison. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Eh bien, juste après, il prie. Si on va en 35, au matin, à la nuit noire, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert. Et là, il priait. Donc, Jésus, il priait. Et ensuite, un peu plus loin, il proclamait l'Évangile. Il prêchait dans leur synagogue et il chassait les démons. Il guérit, il expulse un peu plus loin, il chasse les démons. Donc ça, c'est ce que Jésus fait. Vous voyez, il y a des choses différentes, l'enseignement, être avec, prier, proclamer, guérir, expulser, servir. Deuxième chose, qu'est-ce que Jésus nous dit? Et là, on va aller en Matthieu 22. Ce que Jésus nous dit, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc, de tout ton cœur, c'est l'adoration. Tu aimeras Dieu, tu prieras Dieu. Et puis, vous connaissez la suite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il lit ces deux commandements, c'est la fraternité, le service des autres qui nous est proposé. Ça, c'est ce qu'il nous dit. Et puis, en Matthieu aussi, il nous dit d'autres choses. Matthieu 28, il nous dit « De toutes les nations, faites les disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, il nous envoie faire des disciples. Et qu'est-ce qu'il nous dit derrière? En leur apprenant à garder ce que je vous ai prescrit. Donc, il nous prescrit et nous avons la mission de garder, donc de nous former pour savoir ce que nous avons à garder. Ça, c'est ce que Jésus nous dit. Alors ensuite, le père Emmanuel en a parlé. Comment vivaient les premiers chrétiens? Ces premières communautés, au début de l'Église? Eh bien, en Actes 2, 42-47, qu'est-ce qu'on voit? Ils se montraient assidus à l'enseignement des apôtres. Donc, ils écoutent l'enseignement. Tous les croyants vivaient ensemble. Ils mettaient tout en commun. Vous vous rappelez? Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens. Ils partageaient le prix selon les besoins de chacun. Donc, les croyants, ils vivaient ensemble. Il y a ce côté fraternité. C'est le côté famille qui nous a magnifiquement été expliqué tout à l'heure par le père Emmanuel. Qu'est-ce qu'ils faisaient aussi, ces premières communautés? Eh bien, ils partageaient, c'est ce que je viens de vous dire. Ils partageaient entre tous le produit. C'est le service. Les plus fragiles. Ceux les plus faibles d'entre nous, comme dans une famille, je reprends ce qu'Emmanuel a dit, eh bien, on s'en occupe d'abord. Les plus petits. Ceux qui ont besoin. Et puis, un peu plus loin, d'un seul cœur, ils fréquentaient le temple, et j'avance, ils louaient Dieu, et avait la faveur de tout le peuple. Donc il priait, il louait. Et à la fin de ce passage, chaque jour, le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Donc il y avait des nouveaux, il y avait de la vie, ça rentrait. Ça, c'était les premières communautés. Alors après, bon, on a vu ce que Jésus fait, ce que Jésus dit. Ensuite, les premiers chrétiens, comment ils ont fait. Et nous ? Ben nous, on a, vous vous rappelez, dans notre vocation de baptiser, on dit qu'on est prêtre, prophète, roi. Et ben il y a tout là-dedans. Donc on va regarder ce que ça veut dire. Prêtre, prophète et roi. J'avais écrit quelque chose qui a disparu, donc je vais le faire sans. Prêtre, prophète et roi, ben le prêtre, c'est celui qui d'abord vit un cœur à cœur avec Dieu lui-même. Alors moi j'ai la chance, comme Loïc vous le disait, de voir beaucoup de prêtres dans les formations que nous faisons, d'en rencontrer. Et ces prêtres, je les vois prier le Seigneur. Je les vois dans ce cœur à cœur du prêtre avec Dieu, avec Jésus. Et puis, ils célèbrent pour que nous puissions, nous aussi, ensemble, faire cette famille. Ensuite, le prophète. Ben, le prophète, c'est celui qui annonce, c'est celui qui va apporter la parole. Hein. On voit tout l'Ancien Testament avec tous ces prophètes qui reçoivent des appels à enseigner. Il y en a un certain nombre qui dit « Non, non, pas moi, hein. Moi, je ne suis pas capable. » Et vous remarquez qu'au bout du compte, l'histoire de savoir si on est capable ou pas, ce n'est pas la première question. Quand on est appelé, Dieu sait qui il appelle. Donc notre réponse, c'est de lui faire confiance quand il nous appelle. Le prophète, ben le prophète aussi, il se forme. Hein, et ben c'est ce que font vos prêtres quand ils viennent dans cette association de coachs chrétiens bénévoles qui est Talentéo. Ben ils viennent se former. Et nous aussi, nous nous formons pour pouvoir être prophète. Et puis roi, ben le roi, c'est celui qui gouverne le peuple de Dieu, le munus regendi, comme on dit dans l'Église. Et le roi, eh bien, c'est celui qui est au service de tout le territoire qui lui est confié. Hein. Notre évêque, il se met au service. Vos prêtres se mettent à notre service. Et nous, nous avons à nous mettre aussi au service et donner de la responsabilité. Voilà, donc nous avons cette vocation de prêtre, de prophète et de roi. Et alors, que dit le magistère ? On peut aussi aller voir à cet endroit-là. Donc j'ai pris trois choses. La première, c'est l'encyclique de 1988 qui s'appelle « Christe Fideles Laici », « Les fidèles laïcs ». Donc ça, c'est Jean-Paul II. Donc vous voyez, c'est après le Concile Vatican II, dont on a entendu parler tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il dit ? Ben, il confirme toutes les tendances du Concile pour la participation des laïcs dans l'Église. Égaux en dignité, co-responsables de la vie de l'Église pour sa mission. Donc on est tous appelés dans cette encyclique. Alors après, il y a un autre document qui est assez important, que chez Talentéo, on a beaucoup étudié, que je pense certains connaissent, qui s'appelle le document d'Aparecida, qui se situe en Amérique latine, puisque notre pape étant argentin, ben il a, l'histoire, enfin, le document d'Aparecida, c'est un peu la genèse de la joie de l'Évangile. Mais ce document, quand on le lit, on trouve un certain nombre de choses très, très intéressantes sur l'écosystème des chrétiens. Ce que j'y ai lu, alors pour ceux que ça intéresse d'aller voir là-dedans, je vous invite à aller regarder entre les numéros 365 et 371. Et vous allez trouver là beaucoup d'éléments pour dire que nous avons à faire une rencontre personnelle avec Jésus. Pour nous développer en tant que chrétiens et pour que nos paroisses se développent, chacun d'entre nous est invité à faire une rencontre avec Jésus, personnelle. Nous avons besoin d'être accueillis fraternellement, c'est l'affaire de la famille, et d'être accueillis comme des frères. Nous avons besoin d'être membres et d'être co-responsables, d'avoir quelque chose à faire, un service à rendre. Il n'y a rien de plus heureux qui rend plus heureux une personne
que d'être appelé à rendre un service. Dans le document d'Aparecida, on trouve aussi la nécessité impérieuse pour les chrétiens de ne pas rester à leur foi d'enfant, qui est une belle foi, mais de laisser, par la formation, mûrir, maturer notre foi. Nous avons besoin de cette formation pour notre croissance de chrétien. Et puis l'engagement missionnaire, ça n'est pas une option, et je crois que beaucoup de nos paroisses, finalement, à un moment donné, se sont retrouvées à tourner un peu en vase clos, parce que quand même, c'est déjà pas mal de boulot de s'occuper de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, aller chercher les gens dehors, c'est beaucoup de fatigue. Et puis, en plus, ça va me chercher, moi, personnellement, ça fout la trouille, et puis, de toute façon, quand même, j'ai pas envie d'être prosélyte. Hein ? Qui n'a pas entendu ça chez nous, les chrétiens ? Donc, ici, ça n'est pas une option d'aller annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'une bonne nouvelle, quand on la reçoit, hein, le jour où vous avez un de vos enfants qui a réussi un examen, moi je suis une mère de famille, je vais le dire à tous mes copains. Je suis hyper contente. Tu sais, on est heureux, il y en a un qui a réussi un truc. Ou il y en a un qui a eu un nouveau boulot, etc. Ben, c'est pareil, quand on a la bonne nouvelle de l'évangile dans le cœur, c'est pas optionnel que d'en parler aux autres. Voilà, et on retrouve tout ça dans la joie de l'évangile, puisque le pape, et dans votre livret, vous avez plein d'éléments de la joie de l'évangile qui vont redire ça. Alors tout ça, ça veut dire que chaque personne, concrètement pour vous, pour moi, qu'est-ce que ça change ? Et bien, c'est qu'on est tous appelés à rencontrer le Christ et à cheminer progressivement, voyez ? Et donc là, il y a un chemin. Et je fais un geste souple, vous voyez, un chemin, c'est pas un truc comme ça. On le sait, dans la vie, le chemin, c'est pas tout droit. Un chemin, ça fait ça. Mais ça reste un chemin, j'avance vers le don de moi-même. Et pour ça, on a 5 vitamines. Et c'est ça, quand on dit les 5 essentiels, c'est 5 vitamines. J'aime bien ce mot de vitamine, parce que quand on est en carence d'une des 5 vitamines, physiquement, vous voyez ce que ça nous fait. On est malade. Et quand on a toutes les vitamines à bonne dose, eh bien là, on est en bonne santé. Donc le chrétien, il a 5 vitamines pour pouvoir être en bonne santé de chrétien. Et ces 5 vitamines, ces 5 essentiels de la vie chrétienne, on les a vus dans ce que Jésus nous a dit, dans ce que Jésus a fait, dans ce que faisaient les premières communautés chrétiennes, dans notre vocation de chrétien, prêtre, prophète et roi, dans tout le magistère. Une fois qu'on a parcouru tout ça, eh bien on voit qu'on a l'adoration, la prière, la formation, se former en tant que chrétien, le service à nos frères, l'évangélisation vers le dehors, les périphéries, comme dit notre pape François, et puis la fraternité, la famille. Et on retrouve ça, hein, je vous ai remis à côté pour vous montrer la cohérence incroyable de tout ce que l'Église nous donne. On a une chance absolument incroyable d'arriver à notre époque et d'avoir autant de convergence, hein, c'est Dieu qui est à l'œuvre aujourd'hui dans son Église et qui nous montre que tout était déjà là au commencement. Les 5 essentiels de la vie chrétienne. Et nos communautés, les premières communautés, on peut dire qu'elles étaient prototypales. C'était les prototypes. Les prototypes, c'est le truc qu'on essaye, vous savez, avant de faire de la production dans les entreprises. On fait un prototype, quelque chose qui... On va regarder si ça marche, et ensuite, on le déploie à grande échelle pour le mettre sur le marché. Et ben, nos communautés chrétiennes, c'est des prototypes pour mettre l'expansion, la croissance, le développement de notre Église. Alors, le sens des mots, ce que je veux vous dire là, c'est que la prière... C'est être fils. La prière, c'est plus que venir à la messe. Je crois que c'est bien ce qu'Emmanuel nous a expliqué. C'est aussi, c'est adorer Dieu seul et adorer Dieu en communauté. C'est être fils. La communion fraternelle, c'est être frère. C'est la famille. C'est plus que de la gentillesse, c'est de partager, c'est de soutenir. La formation, c'est plus que l'étude. La formation, c'est de se mettre à l'école du Christ, se mettre en chemin, se laisser transformer par le Christ, par la parole, par la formation que l'on reçoit, c'est être disciple. Le service, c'est être serviteur, c'est se donner aux autres. Et l'évangélisation, eh bien, c'est être missionnaire, on pourrait dire être prophète aussi, c'est proposer le salut par la rencontre et le témoignage. On a entendu beaucoup ça dans les retours ce matin, l'importance de la rencontre. On a parfois des idées reçues sur ce que c'est que l'évangélisation, c'est pour ça que je prends 2 secondes pour vous parler de ça. Il y a plein de façons d'évangéliser, mais il y en a une qui est incontournable, c'est d'aller rencontrer l'autre. Et rencontrer l'autre, ça veut dire que je suis dans ma vulnérabilité, je ne sais pas comment l'autre va réagir, je ne sais pas ce qu'il va me dire quand je ne le connais pas. Donc je ne vais pas lui dire de manière projective des tas de choses. Jésus t'aime. Comment voulez-vous, s'il n'y a pas eu de relation avec une personne, qu'elle puisse... C'est comme un jardin, vous voyez, commencer par labourer, c'est avec la relation, la rencontre. Puis un jour, vous plantez une graine et vous vous en occupez. Donc simplement ça, ça nous engage totalement, émotionnellement, au niveau de nos tripes. Et c'est ça l'évangélisation, c'est d'aller rencontrer nos frères et nos sœurs pour leur dire que déjà nous, on les aime. Et s'ils le vivent, après, on peut leur dire que si on les aime, c'est parce que Jésus les aime et qu'ils sont sauvés. La rencontre. Et alors, on peut leur témoigner de notre expérience. Ces 5 dynamiques de fécondité, parce que ça permet la croissance. Alors, ça, c'est un chemin de conversion. Donc, vous voyez, si je me résume, on a 5 vitamines et il faut s'assurer qu'on a toutes les 5. Et puis, à la fois, c'est un processus. Qu'est-ce que c'est qu'un processus ? Un processus, c'est quelque chose qui nous permet par étape d'avancer sur un chemin. Vous voyez ? Donc, c'est pas le truc de dire « Ok, j'ai bouffé les 5 vitamines, c'est bon, ça va ». C'est pas ça l'affaire. C'est de se dire finalement j'en suis où à chaque moment dans mon chemin de croissance, de chrétien. Vous voyez, ça vient nous chercher personnellement pour grandir dans ma vie de chrétien et me configurer au Christ. Donc il y a un chemin. Alors après, vous savez, l'Esprit Saint, il n'a que faire de nos cadres. Donc quand on dessine un processus, nous on est bien obligé de dire ça commence par ça, ça continue par ça. Mais après, parfois, tout d'un coup, ça commence différemment parce que Dieu l'a décidé et merci, c'est très bien comme ça. Donc moi, je vais vous expliquer une façon, mais il y en a plein d'autres. En tout cas, les étapes, ce qui est intéressant de retenir, c'est que les étapes, elles existent toutes. Je vais commencer à un moment par découvrir l'amour de Jésus pour moi et je vais être bouleversée. Je vais vivre une vie fraternelle forte, la famille. Parfois, la vie fraternelle forte, et souvent d'ailleurs pour beaucoup de personnes, c'est le début. Je vis une vie fraternelle forte qui va me permettre de découvrir l'amour de Jésus pour moi. En tout cas, vous voyez, il y a des étapes, c'est un processus. Ensuite, j'adore Dieu, parce que quand je découvre Jésus, que je fais cette rencontre, j'ai envie de le prier, j'ai envie de lui dire que je l'aime. Je le glorifie, je rends grâce, je le loue, comme on l'a fait ce matin. Et puis, j'ai envie d'approfondir, comme une personne quand on la rencontre. On a envie de la connaître. On lui pose des questions. On s'intéresse à elle. Et ça, c'est la formation. La formation, ça nous permet de maturer, d'approfondir notre relation avec le Christ. Et puis, je vais discerner mes charismes. C'est quoi les talents que tu m'as donné, Dieu, à mettre au service de l'Église ? Et on a vu, hier, Loïc a commencé en disant, il y a plein de talents dans le diocèse. Et on a choisi de faire cette assemblée avec les talents du diocèse. C'est quoi nos charismes, nos talents que nous avons reçus et que nous allons pouvoir mettre au service de la communauté ? Et ça continue. Et je découvre encore l'amour de Jésus et je continue à grandir dans la fraternité. Vous voyez, ça. Et on grandit comme chrétien en continuant à absorber régulièrement les vitamines dont nous avons besoin. Toutes les vitamines. Alors après, il y a un truc, c'est une histoire de tonneau. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui étaient à Ars ici ? Je suis sûre que oui. Donc vous avez, voyez, vous avez déjà entendu parler des cinq essentiels à Ars, pour ceux qui n'étaient pas là. C'était la fin de la formation des pasteurs selon mon cœur du diocèse, de la province de Lyon, à laquelle une centaine de prêtres est venue, dont une vingtaine de notre diocèse. Et ces prêtres, on les a invités un week-end à Ars avec l'ensemble des équipes pastorales. Et donc vous, ceux qui étaient là, et on a vécu un condensé de la formation des prêtres. Puis c'est ce qui la poursuite, c'est aussi aujourd'hui. Donc vous avez déjà entendu ça, et vous savez qu'il y a un défi, c'est le tonneau. Alors c'est quoi cette histoire de tonneau? Vous avez déjà vu un tonneau? Vous avez des lattes sur le côté, qu'on va cercler. Vous voyez, tout le monde a une image de tonneau dans sa tête, ça y est. Alors l'image du tonneau, c'est de se dire que, en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a eu des lattes qui n'ont pas toutes la même hauteur là sur mon tonneau. Le truc con, excusez-moi le mot, c'est que si vous avez une latte qui est là, vous n'allez pas beaucoup pouvoir remplir votre tonneau, voyez. Vous allez remplir vos tonneaux à hauteur de la plus basse de toutes les lattes. Et donc, vous allez pas. Si vous prenez l'analogie en vous imaginant que chacune des lattes, c'est chacun des cinq essentiels. Et eh bien, quand vous allez, si vous avez un des essentiels qui est très bas, la grâce, votre vie de chrétien, elle va s'arrêter à la hauteur de la plus petite latte. Vous voyez le coup du tonneau. Ça veut dire qu'il y a des lattes avec lesquelles on est super, il y en a qui dépassent, vous voyez. Il y en a où on est super enthousiaste, et puis il y en a, oulala, la prière, moi, pas facile, hein. Donc, quelle est ma petite latte? Quelles sont mes grandes lattes? Vous voyez, personnellement déjà. Et ça, ces cinq essentiels, on est invité à les vivre dans tous les lieux de notre vie. Là, je vous ai beaucoup parlé en tant que chrétien, parce que je suis convaincue que la conversion de chacun d'entre nous, la croissance de chacun d'entre nous, c'est la croissance de notre Église. Donc, chacun d'entre nous nous invite à nous occuper de notre propre croissance. Il y a aussi notre famille, dans nos familles, dans nos couples. Comment est-ce qu'on vit ces cinq essentiels? Quelles vitamines est-ce que j'absorbe de fécondité? Dans nos groupes, dans nos mouvements, dans nos services paroissiaux, dans nos paroisses, dans nos diocèses. Ces cinq vitamines sont nécessaires partout. Ça, c'est la question du tonneau. Alors, on a des enjeux par rapport à ça, par rapport à la question des cinq essentiels. L'enjeu, c'est la croissance de nos communautés, c'est notre propre croissance, la croissance de tous les membres de la communauté, les jeunes, les pauvres, on a entendu tout à l'heure, toutes les familles, les anciens, on est tous en train de croître, et puis nos communautés dans la fidélité de la mission à l'Église. Comment on fait avec ça? Ce que ça veut dire, c'est que il s'agit donc d'entretenir nos écosystèmes. Vous vous rappelez le coup du poisson? Comment j'entretiens les écosystèmes pour que dans ma paroisse, dans mon groupe, il y ait finalement les cinq éléments qui puissent permettre le développement. C'est ça notre défi. Donc, là, je me suis fait. J'ai partagé le constat d'un curé de paroisse. Ça va rappeler des choses peut-être à certains d'entre vous. Vous voyez, vous avez, c'est des beaux graphiques, vous avez sur chaque graphique une activité dans la paroisse. Donc vous avez la préparation au baptême, le groupe de prière, l'accueil, le cathé, etc. Et puis vous avez un diagnostic finalement. On en est où? Comme si on construisait son tonneau, c'est les barres. On en est où avec l'adoration? On en est où avec la fraternité, le service? L'évangélisation, la formation. Et vous voyez qu'il y en a qui sont des spécialistes du service et qui sont des très à la traîne sur l'évangélisation. Il y en a qui, à l'inverse, sont des évangélisateurs qui ont des problèmes de prière. En tout cas, si on regarde nos paroisses, on peut se rendre compte qu'on a une tendance à se spécialiser par essentiel. On en prend un, on en prend deux. Donc il y a ceux qui prient, ça c'est le groupe de prière, c'est bon, ils prient pour nous. Donc nous, on va aller s'occuper des pauvres. Et puis vous, là-bas, vous allez faire de la formation pour les cathés. Ça, c'est quand même beaucoup ce que ce prêtre qui nous a passé ça nous a permis de constater. Et vous voyez où je veux en venir. La question qui nous est posée, c'est comment je vis les cinq dans chacun des espaces de la paroisse, dans chacun des espaces du diocèse. Et je vous rappelle, le coup du tonneau, c'est que si vous voulez boire la grâce à grande goulée, il va falloir vous occuper des petites lattes. Sinon, après, on a un peu de frustration, d'amertume, des choses comme ça. Donc, on est tous invités à faire ce diagnostic, parce que ça, c'est un écosystème déséquilibré. C'est un écosystème qui ne permet pas la croissance. Un écosystème qui permet la croissance, c'est un écosystème dans lequel j'équilibre les cinq essentiels. Et je vais même plus loin, c'est un écosystème dans lequel je vous invite même à limiter la prolifération des essentiels qui sont devenus trop essentiels, parce qu'ils prennent trop de place. Et ça vaut pour nous personnellement. Vous voyez, si je suis un fan, un vrai fan de l'évangélisation, c'est super. Qu'est-ce que je fais en prière? Quelle est ma relation personnelle à Jésus? Par exemple, hein. Puis vous pouvez multiplier les exemples, vous voyez. Donc parfois, il faut savoir renoncer à notre inclination première pour aller développer, et c'est ça de grandir en tant que chrétien. Et on y gagne une joie formidable, et ça donne de la croissance à nos équipes. Cette image, c'est l'image de l'éolienne, parce que le souffle de l'esprit, il a besoin des cinq. Vous avez déjà vu une éolienne avec un pal, vous imaginez l'électricité que vous allez produire. Pas top, pas top. Donc je vous invite à donner prise à l'Esprit Saint pour que la dynamique de croissance de nos paroisses, de notre diocèse, le vent de l'Esprit s'y engouffre. Et pour cela, il a besoin de la prière, il a besoin du service, il a besoin de la formation. Il a besoin de l'évangélisation et il a besoin de celui que j'ai oublié, je ne sais plus lequel. Merci. Alors, la dernière chose que je voudrais vous dire, je vous ai parlé de processus de croissance du chrétien, de vous, de moi. Je voudrais maintenant, donc vous avez compris que le processus de croissance, c'est ce qui va permettre la croissance de l'Église. Au bon sens du terme. Vous savez, on entend souvent, avant il y avait plein de monde, mais c'était pas vraiment bien. Maintenant, il n'y a plus personne, mais ceux qui sont là, top. Moi j'ai souvent entendu ça, je ne sais pas vous, mais voilà. Et ben, en fait, l'affaire, c'est que l'éolienne, elle entraîne et que Dieu puisse rejoindre notre monde de manière plus large. Mais parce que nous sommes chacun en croissance avec lui. Ce que ça implique derrière, ces cinq essentiels, c'est qu'il y ait des lieux pour chaque essentiel aussi. C'est-à-dire qu'on s'assure qu'on puisse avoir ce processus de croissance dans notre paroisse. Une personne qui arrive, comment va-t-on la mettre dans une dynamique de croissance, voyez ? Donc pour ça, ça veut dire que tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont responsables, ils ont en quelque sorte un rôle de pasteur. Le pasteur, l'accompagnant, il est là pour s'assurer. Moi, je suis coach. Quand je coach des personnes dans les entreprises ou les organisations, je m'assure avec eux qu'ils ont un processus de croissance professionnelle, par exemple. Il se trouve que je suis aussi accompagnatrice spirituelle. Eh bien, dans ce cadre-là, ce qui est important, c'est de s'assurer, et c'est notre responsabilité aussi à chacun, que chacun des chrétiens avec lesquels nous sommes est lui-même en processus de croissance. Et ça, dans nos paroisses. Ça veut dire que nous avons besoin de lieux pour annoncer, des lieux qui soient accueillants, qui soient attirants, qui fasse que les gens qui viennent, ils ont envie de revenir. Parce que s'ils partent, on ne pourra pas un jour leur faire rencontrer Jésus. On a besoin de fraternité pour faire famille, comme le disait Emmanuel, de fraternité pour s'insérer dans la communauté. Donc on a besoin de lieux de fraternité, on a besoin de liturgie qui soit belle, on a besoin de lieux de prière, de lieux d'adoration dans nos paroisses. On a besoin d'avoir des lieux de formation, il y en a dans le diocèse, il faut y aller. On a besoin de lieux de formation dans les paroisses pour que les personnes progressent dans leur maturité. Et puis on a besoin d'un discernement des charismes de la communauté pour pouvoir appeler et envoyer chaque chrétien là où il va pouvoir donner du fruit. L'affaire, c'est la fécondité. Et tout ça, je n'ai pas le temps de développer, mais je vous invite à réfléchir en quoi ça va complètement changer, je dirais révolutionner les organisations de vos paroisses, de nos paroisses. Parce que si on est trop spécialisé, et si on ne prévoit pas le passage d'un endroit à un autre, de manière dynamique pour la croissance du chrétien et donc la croissance du corps, eh bien, ça va rester pauvre. Je vais rester 15 ans au même endroit. Quelle est ma croissance? Quelle est l'irrigation mutuelle de la communauté paroissiale? Donc, toute cette affaire de cinq essentiels, ça a un impact organisationnel, qu'on trouve bien d'ailleurs dans la joie de l'Évangile, qui est très important. Alors, je vais prendre deux exemples pour terminer, de communautés où je participe et où on s'est appuyé sur les cinq essentiels. D'abord, Talentéo. Donc, Talentéo, je vous rappelle que c'est un réseau français de coachs chrétiens. Nous sommes tous coachs professionnels, mais nous sommes tous bénévoles dans Talentéo pour l'Église. Ce sont des chrétiens qui ont choisi ce mode d'action pour servir. Et ce qu'on vit dans Talentéo, donc ça a été créé et fondé par un couple, Béatrice et Olivier Pelot, sur une intuition qu'ils ont eue au moment de leur mariage. Olivier était séminariste, ensuite ils se sont mariés et ils se sont dit « on aidera les prêtres dans notre vie ». Et donc le Talentéo, ce qu'on dit, c'est qu'on veut des pasteurs en croissance pour une église en croissance. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Si une personne est en croissance, le corps est en croissance, le corps tout entier. Si nos prêtres se mettent dans un processus de croissance, et mon Dieu, je les vois y être, eh bien, à ce moment-là, le corps, notre corps global d'Église va croître. Alors, chez Talentéo, j'ai pris quelques photos pour vous dire ce que nous vivons. Vous n'allez pas bien voir. Nous vivons des temps de prière extraordinaires, comme on en a vécu ici, ensemble, en petite équipe. Chaque fois qu'on se voit, on prie. Et puis, avec les prêtres, quand on se forme, on prie beaucoup dans nos formations. On passe beaucoup de temps à prier, ensemble, sous toutes les formes. On prie aussi avec notre corps, comme hier on a vu danser, et moi je suis assez porteuse de cette importance pour nous les chrétiens de réhabiter toute notre dimension humaine pour prier, comme on l'a vu se vivre ici. Donc on fait ça chez Talentéo, on prie ensemble. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Eh bien, vous voyez ici, vous reconnaissez peut-être de loin la photo d'Ars, pour ceux qui étaient autour de notre évêque. Il y avait quand même 300 personnes à peu près du diocèse qui étaient là. On vit un peu moins, me dit Loïc qui fait une petite grimace, je ne sais pas combien on était. On était moins, mais on était beaucoup. Voilà, donc on vit des moments de formation, des moments de rassemblement. On vit des moments de formation, là c'est l'université d'été, vous voyez, tous les ans, moi j'y suis depuis 5 ans. Aujourd'hui, on est 100 coachs à peu près, même un peu plus. On vit 3-4 jours ensemble pour se former à ce que nous voulons faire. On vit aussi des grands moments de fraternité, d'équipe. On a des soirées coach ensemble où on se retrouve. Il y en a à Lyon, il y en a à Paris. Et puis, on va dehors faire de l'évangélisation. Voilà. Tous les mouvements peuvent faire ça. Et ce qui est sûr, c'est que si on était 30 il y a 3 ou 4 ans et qu'on est 100 aujourd'hui, probablement les cinq essentiels nous y conduisent. Le Sacré-Cœur, ben on y est ici. Ce que je voulais présenter de l'expérience du Sacré-Cœur, c'est d'abord la façon dont on a mis en premier les espaces fraternels au Sacré-Cœur. Au Sacré-Cœur, vous avez une communauté de volontaires qui est très engagée, des bénévoles comme vous, comme moi. Et qu'est-ce que nous faisons? Ben nous avons prévu une organisation dans laquelle nous avons une communauté cœur, on l'a appelée comme ça, qui est composée de nos prêtres, qui est composée de l'ensemble des responsables, du conseil pastoral et puis des responsables. Donc vous voyez tous les responsables du Sacré-Cœur, tous ceux qui ont une responsabilité, par exemple Yves et Bénédicte qui s'occupe de l'accueil, Isabelle qui s'occupe de la pause famille, etc. On a chacun une responsabilité et on se retrouve en communauté. Et ce que l'on vit dans cette communauté, c'est d'abord de la fraternité. On fait d'abord corps, on fait famille, comme disait Emmanuel. Et probablement que cette intuition-là crée la dynamique de croissance de la communauté des volontaires. Et puis, chaque responsable, eh bien, il est, invité avec son équipe à être pasteur de son équipe, à accompagner la croissance de chaque personne de son équipe. C'est comme ça qu'on l'a pensé. Et j'insiste sur la façon dont on pense les choses. La façon dont on pense les choses crée l'action et la réalité. Si je pense les choses de manière cloisonnée, eh bien, elles seront cloisonnées dans les faits. Si je pense les choses en termes de fraternité, je vais permettre le développement de la fraternité. Si je pense la transversalité, je permets la transversalité de se développer. Voilà. Et donc, dans la communauté du Sacré-Cœur, qu'est-ce qu'on fait très concrètement? On se retrouve fraternellement pour prier ensemble. Donc on a 4 à 5 soirées par an de cette communauté cœur où on se retrouve juste pour se retrouver. Vous savez, ces soirées où il n'y a pas d'agenda. C'est vachement bien, les soirées où il n'y a pas d'agenda. Et on se retrouve pour se rappeler la vision, pour se former, pour se rencontrer. Et puis on fait du co-développement. Le co-développement, c'est-à-dire qu'on partage nos pratiques. Et ça, ça a de la fécondité, l'unité. Et la fraternité sont l'essentielle fécondité qu'on voit aujourd'hui. Et pourtant, on est bien pauvre dans cette communauté du Sacré-Cœur. On a peu de moyens, parce que sur Grenoble, tout le monde pense qu'on a énormément de moyens. La basilique est énorme, magnifique, et a vraiment un investissement très fort du diocèse. Et je crois que la communauté du Sacré-Cœur est tout aussi pauvre, juste des bénévoles qui y travaillent, que le sont toutes nos paroisses. Et je crois qu'en ce sens, nous sommes vraiment tous dans la même aventure. Et ce qui fait que ça marche, ce sont les 5 essentiels qui sont au cœur. Ça ne marche plus. Voilà. Merci.